Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour.
Ils sont déconsidérés, mal payés, souvent débordés. Pourtant, ils font le plus beau métier du monde, celui d'enseigner. Mais ce ne sont pas des profs au bord de la crise de nerfs que vous verrez ce soir sur France 5, non. Vous découvrirez quatre profs de primaire, collège et lycée, de générations différentes, dévoués à leurs élèves et qui sont heureux d'être professeurs, tout simplement. Au bonheur d'être prof, c'est le nom de ce documentaire diffusé ce soir à 20h50 sur France 5. Bonjour Marina Julienne.
Bonjour.
Vous êtes la réalisatrice de ce documentaire. Première question basique, pourquoi avoir choisi de parler du positif? Je veux dire, le sens de ma question, on sait qu'il est beaucoup plus facile de dire ce qui va mal que ce qui va bien. Donc comme on dit, bad news is good news. Pourquoi avoir choisi cet angle positif?
En fait, j'ai fait plusieurs documentaires sur le domaine de l'éducation nationale, dont Collège public sauf qui peut, qui dit bien ce que ça veut dire, oui. Sur l'évitement scolaire. Ensuite, un deuxième film qui s'appelait L'école à bout de souffle, sur un système scolaire assez sclérosé, voilà, sur le primaire.
Ça, c'était il y a 7 ans,
oui, L'école à bout de souffle. Oui, c'était il y a 7 ans. Et à chaque fois, en réalisant ces films, j'ai rencontré des enseignants qui, malgré tout, étaient vraiment dévoués pour leurs élèves, se bagarraient au sein d'un système pour essayer de faire classe autrement, de persévérer. Et donc, je trouvais que c'était important de montrer aussi le côté engagé de beaucoup de professeurs.
Vous trouviez, mais vous n'êtes pas toute seule, quand on fait un documentaire, il faut la chaîne. Est-ce que la chaîne vous a suivi facilement, ou est-ce qu'au contraire c'était dur à convaincre de leur dire on va montrer des choses positives?
Honnêtement, je crois que la chaîne m'a suivi parce que l'année d'avant, ils avaient fait un documentaire où ils donnaient la parole à des professeurs qui craquaient dans le système de l'éducation nationale.
Donc pour contrebalancer.
Voilà.
Vous avez donc suivi 4 profs. Qui sont-ils? Vous voulez les détailler? Il y a Nolwenn, Jean-Pierre, Jérémy et Gérard.
Oui, alors Nolwenn, elle est directrice d'une toute petite école en Bretagne, un village très bédant.
Mmh. Jean-Pierre,
il est professeur d'histoire géo en lycée à Saint-Denis, donc en banlieue.
Ouais. Il avait quitté un poste du ministère de la Défense.
Oui.
C'est quand même assez rare pour être signalé pour être prof en banlieue, alors qu'on dit que c'est le job dont personne ne veut et surtout pas les jeunes qui démarrent.
Oui, alors que lui, c'était vraiment son engagement de départ. Il s'est dit que c'était là qu'il pouvait être utile à quelque chose.
Ouais.
Voilà, c'est pour ça qu'il a choisi d'enseigner en banlieue. Jérémy, c'est un jeune enseignant qui, quand je l'ai rencontré, était à moitié dans le public et venait d'entrer aussi à l'école privée alternative de Arles.
Ouais. Et puis Gérard,
c'est un enseignant, lui, qui a une carrière professionnelle avant d'être enseignant et qui est maintenant professeur en CAP, en génie civil.
À Briançon. Comment les avez-vous choisis? Vous les connaissiez? Comment s'est passé?
Non, par exemple, les profs de Briançon, l'enseignant de Briançon, je l'ai rencontré par une journée sur l'innovation pédagogique qui était organisée par le ministère de l'Éducation nationale. Il y a aussi une association, le Café Pédagogique, qui organise des rencontres sur l'innovation. Et puis Ashoka, qui est une association qui repère des acteurs du changement dans le domaine de l'éducation, et là qui m'a orienté sur Nolwenn à Trébédan.
On dit Nolwenn?
Oui,
je pensais que moi j'aurais dit Nolwenn. Alors, ça veut dire que leurs initiatives sont pas assez mises en valeur, pas assez médiatisées, c'est pour ça que vous les avez suivies?
Exactement, c'est-à-dire que ils sont tous finalement dans des écoles lambda, dans des lycées lambda et pourtant ils ont des projets extraordinaires, mais ils sont jamais mis en avant, ils sont généralement peu soutenus par leur hiérarchie et peu soutenus par leur père.
Combien de temps vous les avez suivis?
Une année scolaire.
Gérard qu'enseigne le génie civil en CAP résume très bien le métier de prof. Il y a la théorie et il y a la pratique. Extrait.
C'est sûr que c'est stressant et sur un plan technique et de connaissances, on est à l'aise. Par contre, l'appréhension au début, c'est plus le relationnel avec les élèves. Comment ça va se passer d'avoir un groupe de 15 élèves devant soi? Parce qu'il y a toujours des petites problématiques. Hein. Il n'y a pas un cours qui se ressemble. Un cours qui peut très bien débuter, tout se passe bien, pour X raisons, le petit stylo qui tombe au moment, et ça part en live. C'est de l'adaptation et de la psychologie en permanence.
Mais vous avez quand même assisté à des scènes plus tendues que d'autres. Je dis ça parce que Gérard dit le stylo qui tombe, ça dérape, ça part en live. Vous montrez pas le partage en live, si j'ose dire. C'est un choix. Vous l'avez pas eu à l'image ou vous l'avez eu à l'image et vous avez choisi de ne pas le garder au montage.
Si, on le montre un petit peu justement à l'image. Il y a une toute petite séquence dans la classe et on sent bien que ça dérape.
Mais c'est pas ce qu'on appelle partir en live.
Oui, mais après, l'idée c'était pas d'insister là-dessus. C'était juste de comprendre que effectivement, c'est pas simple d'enseigner avec ses publics pédagogique-là dans ces classes-là, mais c'était de montrer que ce qu'ils font, c'est-à-dire en l'occurrence un chantier école pendant 3 semaines où ils travaillent sur la restauration de la collégiale de Briançon, c'est quand même 10 fois plus intéressant que de construire en classe un circuit électrique qu'on démolit, enfin qu'on casse le lendemain, ou de monter, je sais pas quoi, une salle de bain, en l'occurrence pour ces élèves de CAP, même chose qu'on casse à la fin de la semaine parce que c'est la fin du travaux pratiques. Alors que là, ils sont engagés sur des projets qui vont rester. Et en plus, grâce à eux, il y a des visites qui sont organisées de la collégiale. Donc, il y a des touristes qui viennent voir ce qu'ils ont fait. Enfin, c'est très valorisant. Et du coup, ça se passe super bien, en l'occurrence, quand ils sont justement en chantier école. Et c'est ça qu'on a suivi.
Il n'y a pas que les projets qui vont rester. Il y a vous aussi. Vous restez avec nous, Marina Julienne. On parlait de Jean-Pierre. Lui, son truc, c'est d'emmener ses élèves en voyage dans des pays lointains pour les confronter à une autre culture. Et cette année-là, pendant que vous le filmez, il a décidé de bousculer ses élèves de Seine-Saint-Denis en les emmenant au Japon. Extrait.
Ces élèves-là, souvent, le problème qu'ils ont, c'est que eux se sentent français complètement. Dans le regard des autres, souvent, c'est pas le cas. Et alors, j'avais l'idée de se dire, quand on part à l'étranger, en fait, les étrangers qui vont nous recevoir voient des Français. Et je m'aperçois que cette fierté d'être français, ils la retrouvent et ensuite ils la gardent. Voilà. Et là, ça leur fait un bien fou, ça. Et le voyage, rien que pour ça, si au moins ils ont pu gagner ça, leur estime de soi, bon, je trouve que c'est quand même pas mal, quoi.
Très beau témoignage. Les élèves, ils en pensent quoi ?
Mais les élèves, effectivement, au Japon, justement, Jean-Pierre, il rencontre un de ses anciens élèves avec qui il a fait un premier voyage, un des premiers voyages il y a une dizaine d'années. Cet élève est devenu maintenant, il travaille à Tokyo et donc il se rencontre. Et il raconte ça, c'est-à-dire que lui, le premier voyage qu'il a fait, c'est ça qui lui a permis de se sentir français, parce que lui-même était algérien, arrivé en France assez tard. Et en travaillant là au Japon, bah, il se rend compte que... Bah, finalement, il a envie de sa baguette de pain le matin, qui râle comme tous les Français. Et donc, oui, effectivement, ça fonctionne. Hein,
Alors, je précise que les élèves, il n'y a pas seulement des ados à problème, il y a aussi des tout-petits. Et les élèves que vous filmez, ils ont vraiment de la chance, parce qu'ils partent en voyage, on leur demande leur avis. Ils ont même le droit de choisir comment organiser la cour de récréation entre ceux qui veulent discuter, ceux qui veulent courir, ceux qui veulent jouer au ballon, et même sur le choix des sports. Extrait.
Chaque groupe va présenter la proposition qu'il a pour aménager la cour. Et il faut qu'à la fin de ce moment-là, on ait décidé ensemble de ce qu'on retient comme proposition.
Bah, en fait, là, un problème, parce qu'en fait, là, on ne sait pas si c'est foot ou basket. Parce que si c'est foot, en même temps c'est basket, ça dérange les autres qui font du foot.
Pourquoi on a fait un terrain pour courir et un terrain pour jouer au ballon ?
Parce que moi, j'avais décidé ça.
Ah oui, tout seul. On a discuté, non, pour décider.
Oui.
J'adore. C'est vrai que si c'est foot et en même temps c'est basket, on comprend plus rien. C'est juste pas possible. C'est quoi le point commun entre les 4 profs que vous avez suivis après coup ? C'est la pédagogie qui met l'enfant au centre. Qu'est-ce que vous avez découvert en tournant ce documentaire ?
C'est effectivement la pédagogie qui met l'enfant au centre, qui est la bienveillance vis-à-vis des enfants et surtout le fait qu'ils croient vraiment dans le rôle de leur de l'éducation, quoi. Ils croient dans leur métier, ils pensent vraiment et avec raison que la façon d'enseigner et la façon de se comporter avec les enfants peut vraiment avoir une influence sur leur avenir.
Je vous interromps sur cette réponse. Tous les profs ne sont pas bienveillants, tous les profs ne pensent pas que l'éducation est au centre.
Je pense que...
Je pensais que c'était la base, moi, benoîtement. Non, mes parents étant profs, je me souviens de ça.
Ceux-là sont particulièrement, investis d'une mission.
Ouais.
Et ils ne se contentent pas juste d'appliquer peut-être des programmes.
Et les directives.
Voilà.
Autre point commun, justement, pour parler des programmes, les 4 profs, on les sent bien seuls. Ils n'ont pas tellement le soutien ni de leur hiérarchie, ni de leur père. Pourquoi se sentent-ils si seuls, selon vous ?
Ben parce que les projets dans lesquels ils sont engagés, c'est vrai que ça demande plus de travail, plus d'investissement. Il faut remplir des dossiers, faire des demandes de subventions. Ça prend du temps. Il faut un travail d'équipe aussi pour monter ce type de projet. Du coup, je pense qu'ils dérangent un peu. Alors,
ouais. Bon,
on les laisse faire. En gros, c'est un peu ce que dit Nolwenn, c'est-à-dire que voilà, personne ne m'a empêché de rien. Et en même temps, le soutien, ils ne l'ont pas. Et ou alors, ils l'ont vraiment au bout de 14 14-15 ans d'investissement où, où la hiérarchie constate que vraiment l'école est transformée. Là, il commence à avoir une reconnaissance.
Ça fait penser à certaines personnes qui travaillent comme huissier de justice, je pense à ça parce que j'ai vu un reportage, qui achètent eux-mêmes la peinture et qui peignent eux-mêmes leur bureau. Parfois, ils sont quasiment obligés d'investir sur leur temps, sur leur argent, d'aller démarcher pour construire leur projet.
Oui, oui, c'est sûr qu'ils s'investissent personnellement au-delà des heures de cours, mais aussi parce que c'est aussi une façon pour eux d'abord de ne pas s'ennuyer en classe. Enfin, il faut quand même dire qu'ils en retirent aussi un bénéfice personnel de cet investissement. Donc leurs élèves ne s'ennuient pas avec eux et eux ne s'ennuient jamais dans leur métier. Donc, et c'est ce qu'ils disent, au bout de 20 ans, on est toujours heureux de venir faire classe parce qu'on a, plein de projets. Et voilà, donc,
Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, l'argent privé qui compense le manque d'argent public?
Disons qu'il ne faut pas que ça s'institutionnalise, évidemment, mais après, moi, je ne suis pas choquée par le fait que pour certains projets, ils aient recours au privé. Pourquoi pas ? Je veux dire, il faut quand même faire des passerelles entre l'école et entre les lycées et les entreprises. C'est des gamins, après, qui vont aller travailler à Saint-Denis, notamment. Il y a beaucoup, ensuite, qui vont faire des BTS en alternance avec les boîtes du bâtiment. Donc, je trouve pas ça du tout absurde de coopérer avec eux, tant mieux.
Mais c'est presque un formidable documentaire. Non, c'est pas presque, c'est un formidable documentaire à montrer à tous les profs, à tous ceux qui souhaitent le faire. Vous avez été contacté par le ministère de l'Éducation, par Jean-Michel Blanquer?
Non, pas pour l'instant.
Pour diffuser votre documentaire en terminale dans les facs, en disant voilà, regardez ce qu'on peut faire quand on est prof, c'est formidable.
Oui, je pense que ce serait bien pour donner le goût d'enseigner aussi.
Vous travaillez sur quoi en ce moment? C'est quoi votre prochain projet?
Là, pour l'instant, je travaille sur l'émission C'est toujours pas sorcier. Donc, voilà. L'émission C'est toujours pas sorcier.
D'accord. Vous faites quoi comme documentaire dessus?
Alors, je fais des documentaires sur les araignées, les sous-marins. Enfin, c'est très, très éclectique.
Votre prochain tournage, c'est sur les araignées, les sous-marins ou...
Les sous-marins, voilà.
D'accord. Vous allez passer combien de temps dans un sous-marin?
Non, je ne vais pas y rester longtemps. Les femmes sont maintenant admises à bord des sous-marins, ce qui est très récent.
Ouais. Et vous savez quoi? Ce qui est formidable dans les sous-marins, c'est qu'il n'y a pas d'araignée. Merci beaucoup Marina Julienne. Au bonheur d'être prof, c'est le titre de votre documentaire diffusé ce soir à 20h50 et sur France 5. Ça se passe dans le cadre de l'émission Le Monde en Face, présentée par Marina Carrère-Dancos. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
Merci.
Restez avec